À l'attention de nos auditeurs. Le programme qui va suivre pourrait heurter la sensibilité de certaines personnes, notamment celle des enfants et des préadolescents.
Das gesamte Volkes, damit die Verelendung dieses Volkes und damit den Verrat gerade an der Klasse.
3 février 1933. La première page du journal La Sarthe titre en caractère gras. La majorité des Allemands se trouve derrière Adolf Hitler. Celui-ci vient d'accéder à la chancellerie du Reich le 30 janvier. Le deuxième titre, un mince entrefilet. Madame Lancelin et sa fille Geneviève assassinées par leur bonne. La veille au soir, rue Bruyère au Mans, l'agent de police Vérité découvrait un véritable carnage. Christine et Léa Papin avaient perpétré un horrible crime. Dans la chambre des bonnes, première partie.
C'est bien 5 francs ?
Madame a dit, je retiendrai 5 francs sur vos gages.
5 francs, tu dis ?
5 francs. Il devait être sacrément détraqué, ce fer. Ça coûte cher, hein, fer. 5 francs.
On aurait dû faire attention. On n'a pas fait attention.
On a fait attention. On aurait dû faire plus attention. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien fait de mal.
On n'a rien fait de mal. J'ai repassé les 4 chemises de monsieur, les draps, et quand je suis arrivée au jupon, ça a sauté. J'aurais dû commencer par les draps. Madame préfère quand on commence par les draps.
On aurait dû commencer par les draps.
5 francs. On n'aura jamais assez pour les gants. Elle m'a donné le menu pour demain. Elle l'a marqué sur un papier.
Encore ?
Encore. Elle m'a donné le papier et elle me regardait bizarre. Elle nous parle plus. Elle t'a parlé hier ?
Elle m'a pas parlé.
Moi, elle m'a parlé. Elle m'a dit « Bonjour Christine ». Et elle me regardait bizarre en me disant « Bonjour ». Elle nous parle plus. Elle veut plus nous parler.
Elle veut plus nous parler, pas vrai ? Pourquoi elle veut plus nous parler ? On n'a rien fait, pas vrai ?
On n'a rien fait. Elle veut plus nous parler. Elle nous regarde bizarre. On n'a rien fait de mal.
On n'a rien fait de mal. Pourquoi elle veut plus nous parler? C'est peut-être la tache l'autre jour sur mon tablier.
L'autre jour, il y avait une petite tache sur la poche de ton tablier. Elle t'a regardé bizarre.
Elle m'a regardé bizarre. J'ai pas eu le temps de me changer. On n'a rien fait de mal. Les Duchesne venaient dîner.
T'as pas eu le temps de te changer. C'était une toute petite tache. On n'a rien fait de mal.
Alors pourquoi elle m'a regardé comme ça? On peut pas aller à la messe de Pâques sans les gants, Hermine. 5 francs. On n'aura jamais assez.
Elle l'a fait exprès.
Elle l'a fait exprès.
Elle l'a fait exprès. Elle veut pas qu'on aille à l'église avec des gants en Hermine. Elle veut pas nous voir avec des gants plus jolis que les siens. C'est pour ça. Elle l'a fait exprès. Elle est jalouse. Elle veut nous empêcher.
Elle veut nous empêcher.
Sophie Mamouni, auteur du livre « L'affaire Papin ».
Quand elles sont toutes les deux dans la maison, elles sont en train de repasser. Elles ont un fer à repasser qui a déjà donné des signes de défection la veille ou l'avant-veille. Et il se trouve que ce soir-là, en fin de journée, à nouveau, le fer ne fonctionne pas et fait sauter tous les plombs de la maison. Donc, elles sont pas très en avance sur leur travail de repassage, elles décident en fait d'arrêter et de se dire bon, on verra bien une fois que notre patronne, Madame Lancelin, sera de retour, puisqu'elle est de sortie avec sa fille, on lui demandera ce qu'il faut faire. La maison est plongée dans le noir, il est environ 18h. Madame Lancel, elle l'entend de rentrer. Elles descendent de leur chambre puisqu'elles s'étaient retirées donc dans les chambres des bonnes qui se retrouvaient en général sous les toits. C'est une maison de maître chez Lancelin, hein, c'est un avoué, maître Lancelin. Et lorsque la patronne revient, elle se trouve donc nez à nez face à Madame Lancelin. C'est Christine qui descend d'abord et qui lui dit « Écoutez, les plombs ont sauté ». Et là, il y a quelque chose qui se passe. Alors évidemment, il y a un transfert, puisque Madame Lancelin apparemment n'aimait aucune violence vis-à-vis de Christine, mais c'est Christine qui assomme Madame Lancelin et qui, à partir de là, ça va être une horreur, une boucherie, parce qu'elle va l'assommer, il y aura énucléation, sa sœur va arriver, elle va lui intimer aussi de s'acharner sur la fille Lancelin qui a suivi la mère. Enfin, et là, c'est vraiment une scène d'horreur.
Céline Bensoussan.
Moi, ce qui m'a amené à m'intéresser à l'affaire des sœurs Papin, c'est lorsque Delphine Alvado et Anne Bourgès, les comédiennes de la pièce de théâtre L'Abattoir, m'ont demandé d'apporter un petit peu un regard extérieur, entre guillemets, analyse de leur travail de recherche, ce qu'elles avaient pu trouver. Et donc là, je m'y suis plongée.
Et en ce qui me concerne, c'est l'histoire des sœurs Papin. C'est une histoire qui, pour moi, date de longtemps, puisque quand j'étais étudiante...
Brigitte Beck.
On avait étudié dans le cas d'unité de valeur sur la psychanalyse la question de la paranoïa. Et ça avait été abordé à l'éclairage de certains cas, et notamment le cas des sœurs Papin, au regard de la lecture qu'en faisait Lacan à l'époque. Et ensuite, il se trouve que mon parcours professionnel m'a amené à travailler dans un service de psychiatrie à Mello carcéral où, effectivement, je passe le plus clair de mon temps à écouter des criminels, et notamment des meurtriers. Et donc, j'ai été amenée, effectivement, à me repencher sur les écrits de cette histoire-là pour essayer de voir un petit peu voilà, qu'est-ce qu'il en était dit, quelles avaient été les différentes approches et lectures de cette histoire-là.
Et c'est cet intérêt commun qui vous a amené à animer ce qu'on appelle des bords de scène suite au spectacle L'Abattoir joué par Delphine Alvado et Anne Bourgès.
Oui, tout à fait. En fait, elles se sont adressées à nous par rapport à sa pratique professionnelle et moi-même, puisque j'avais fait un cursus universitaire en psychocriminologie. Donc, voilà, elles attendaient un petit peu, lors de ces bords de scène, qu'on puisse proposer une analyse en fonction de nos terrains professionnels ou universitaires.
Les éditions de Vecchi m'ont demandé de trouver un récit concernant une affaire judiciaire dont on n'avait pas encore trop parlé, tout au moins à travers des livres, des films ou autres. C'était dans environ les années 1999-2000.
Sophie Mamouni.
Et en feuilletant dans les archives du musée de la police à Paris, les diverses coupures de presse, j'ai trouvé le récit de cette affaire. Mon attention a été attirée par le fait, en fait, qu'il y avait une démesure, à première lecture, entre le mobile apparent de ce crime et la violence des actes. Quelque chose qui a, en fait, je trouve, a nourri le mystère des sœurs Papin. Et puis que c'était aussi une histoire de fratrie de deux sœurs, c'est un sujet qui me tient à cœur, et que ces deux sœurs aient agi donc de concert, et qu'elles aient... Alors, il y avait aussi le fait que c'était de bonnes, la condition ancillaire, le rapport du patron aux employés, le dominant, le dominé, qu'on retrouve à la fois à travers la relation ancillaire, mais aussi entre les deux sœurs. Tout cette folie qui quand même sous-tendait toute cette affaire quelque part. Le silence aussi à travers ces filles, ce sont deux filles qui sont très silencieuses. Ça, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, le silence, et surtout justement à travers ces personnages-là. L'époque aussi, en
1933,
Le Mans, petite ville de province, je suis moi-même, j'ai vécu dans une petite ville de province, ça m'a ramené peut-être à mon histoire personnelle par rapport aux ouvriers et aux employés aussi, de par la ville où j'ai grandi, qui est Mazamé, où il y avait une industrie, où on voyait aussi un rapport dominant-dominé. Et puis bien sûr, le procès en lui-même, puisque... C'est un procès qui a soulevé le problème de l'expertise, comme ce fut le cas à travers d'autres procès dont j'avais établi le récit, et notamment celui de l'affaire Marie Bénard.
Marie-Christine Bruyère.
Je suis de formation médicale psychiatre et j'ai, dans ma formation, pris une orientation psychanalytique. Donc j'exerce comme psychiatre et comme psychanalyste.
Et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'affaire des sœurs Papin ?
Alors, c'est un élément précis, c'est la lecture de l'article du docteur Jacques Lacan, motif au pluriel du crime paranoïaque, le crime des sœurs Papin. Je citerai le début de cet article parce qu'il souligne immédiatement l'intérêt qu'il occasionne. On se souvient des circonstances horribles du massacre du Mans et de l'émotion que provoqua dans la conscience du public le mystère des motifs des deux meurtrières, les sœurs Christine et Léa Papin. C'est ainsi que le docteur Lacan introduit l'article qu'il écrit en octobre 1933, c'est-à-dire 3 mois après le jugement, et qui sera publié d'ailleurs dans un premier temps dans la revue Le Minotaure. Ce que le docteur Lacan souligne, est clair, c'est le mystère. Et cet élément de la raison du crime a été relativement peu traité lors du procès et n'a eu quasiment pas d'impact sur le jugement. Les aveux ont été immédiats, ce qui était un point un peu fragile, c'était l'absence de témoins. Donc, la seule chose qu'il aurait fallu fouiller et qu'il aurait été intéressant de creuser, c'était les motivations, la raison pour laquelle ces deux personnes qui étaient des servantes modèles sont devenues deux folles furieuses. Enfin, je dis folles, je m'avance un peu sur mon idée, en tout cas, deux criminelles furieuses. Donc, en soulignant ce point du motif, le docteur Lacan introduit un élément et un regard clinique et va permettre, et ce sera suivi de divers travaux, de faire passer en quelque sorte l'affaire au cas. On passe du domaine juridique à un éclairage dans le champ de la clinique.
Il y a une dimension de l'incompréhensible d'un acte pareil, hein, puisque c'est un acte horrible, hein, c'est un acte monstrueux, et en même temps, on ne trouve pas d'explication rationnelle à cet acte.
Brigitte Beck.
C'est-à-dire comme si c'était sans raison. Elle ne donne pas de motif compréhensible. Alors après, ce qui a été mis en avant, les raisons pour lesquelles elles ont été responsabilisées, parce qu'on n'a pas trouvé de manifestation délirante des deux sœurs. On n'a pas trouvé de débilité, ni d'épilepsie. Hein. C'est-à-dire ces trois éléments qu'ils ont amenés et qui pouvaient faire conclure à ces experts à ce moment-là que, effectivement, il n'y avait pas de pathologie mentale avérée. Donc ça, c'est un des éléments. Il se trouve que quand on interrogeait les sœurs, et notamment Christine, puisque c'était elle qui impulsait les réponses, on va dire, hein, elle décrivait les faits de façon descriptive, avec une forme de froideur. Et qui a effectivement, au niveau de la salle, enfin de l'auditoire, enfin au moment du tribunal, a quelque peu refroidi tout le monde, c'est le cas de le dire. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose de monstrueux, et quelqu'un qui se présente de façon froide, et qui ne paraît pas quelqu'un qui a perdu la raison, puis qu'elle raconte les choses de façon très détaillée.
Il n'y a pas eu de manifestation délirante durant l'interrogatoire, en fait. Si on prend après ce qu'il a pu se passer en détention, voilà. Là, on a des manifestations extérieures délirantes.
Céline Bensoussan.
Cette froideur et ce détachement pourraient aussi être interprétés, de nos jours certainement qu'ils le seraient, comme d'un délire sous-jacent. Quand il y a un détachement comme ça et une froideur par rapport à l'acte, quand même, on s'interroge sur la structure de nos jours et... Sauf que là, ça venait prouver que la personne pouvait énoncer les faits, dire comment ça s'était passé, et donc ben, qu'elle n'était pas dans quelque chose de délirant. Donc ça aussi, c'est un peu à interroger. En fait, les gens vont essayer de trouver, pourquoi, une explication, donc y mettre du sens, comme on dit, pour avoir une prise en fait sur les choses, une certaine maîtrise, et qui fait que si on peut l'expliquer, alors on peut le prévenir. On verra bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe.
Cependant, il me semble me souvenir que, sans parler d'hystérie, l'expert de la défense, le docteur Logre, lui, avançait quand même cette hypothèse qu'il y avait peut-être quelque chose de l'ordre de l'hystérie.
Oui, alors lui, il a fait cette hypothèse de ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'expert Logre, il n'a pas été désigné par le tribunal. Et donc, c'est le seul qui a fait l'hypothèse de quelque chose qui était du côté, alors c'était hystérico, puis organique, enfin il y avait, voilà, mais une explication qui serait quand même du côté effectivement de l'irresponsabilité.
C'était l'expert de la défense en quelque sorte.
Alors c'est la défense qui l'a utilisé, on va dire, hein, voilà, c'est comme un témoin, quoi, on va dire, hein, plutôt un témoin de la défense, mais pas un expert désigné en tant que tel par la justice, quoi. Alors effectivement, lui, il avait quand même des éléments qui pouvaient faire penser qu'effectivement, il n'y avait quand même pas un esprit sain dans des actes comme cela. Après, juste pour moduler ce que disait Céline tout à l'heure, une histoire comme ça aujourd'hui, peut-être que le débat resterait entier. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui, parfois, à des procès où des choses peut-être aussi horribles peuvent être commises, et où on se retrouve avec les mêmes débats au niveau des experts. C'est-à-dire des experts qui vont s'affronter entre la responsabilité et l'irresponsabilité, et par rapport à cette question de la pathologie. Il y a des experts encore aujourd'hui, comme à l'époque des sœurs Papin, qui, quand il n'y a pas de manifestation délirante frappante, peuvent conclure aussi à la responsabilité des gens, alors que d'autres peuvent dire « ouais, d'accord ». Mais structurellement, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a tel et tel élément, comme on pourra le décortiquer après, justement, pour l'affaire des sœurs Papin. Pour résumer, c'est que finalement, c'est un débat qui est toujours à peu près intemporel.
Le fer est encore détraqué. Vous avez encore détraqué le fer.
Vous avez encore détraqué le fer.
Le fer est encore détraqué.
Vous avez encore détraqué le fer.
Mais vous êtes bonne à rien.
Vous êtes bonne à rien.
Encore. Vous avez encore détraqué
le fer.
Le fer.
Vous avez encore détraqué le fer.
Encore détraqué. Mais vous êtes bonne à rien. Mais vous êtes bonne à rien. Encore.
Le fer est encore détraqué.
Encore.
Vous avez encore détraqué le fer.
Le fer est
mais
encore détraqué.
Bonne à rien.
Vous êtes bonne à rien.
Sous la forme de l'attaque, son déroulement fut porté d'emblée au paroxysme de la fureur, nous dit Lacan dans son article.
Marie-Christine Bruyère.
Nous allons décomposer ce qui est ramassé en un seul temps. Le fer à repasser, qui leur sert à faire, c'est leur outil de travail, quelque chose avec quoi elles se tiennent, se détraquent. Christine dit, il avait déjà été démoli et avait été réparé la veille, j'étais allée le chercher chez Boucherie. Notons ce Boucherie. Cela provoque une panne d'électricité et l'obscurité dans la maison, un soir d'hiver, matérialisant, nous dit Lacan, un certain silence. Le retour des patronnes est inopiné, les sœurs sont surprises. Alors Christine s'avance pour demander à madame de réparer le fer. Celle-ci répond par une observation, dira Christine par la suite, qui s'accompagne d'un geste d'humeur. Une observation, elle lui dit quelque chose, on ne saura jamais quoi. Et cette parole, peut-être d'agacement, s'accompagne d'un geste, peut-être lui a-t-elle même mis la main sur l'épaule, une sorte de mainmise. Et cela suffit. L'attaque déclenchée se déroule en deux temps, les deux femmes sont assommées encore vivantes, elles sont énucléées. Puis, avec des instruments qu'elles vont chercher à la cuisine, elles arrangent les patronnes. Alors, il faut remarquer là, c'est pour ça que je détaille un petit peu, que ces gestes, les nucléations, c'est ainsi qu'on tue les lapins. Et Christine est cuisinière chez les Lancelins. Les enciselures, qui sont des traces sur le pain pour le faire cuire et qu'elles vont faire sur les jambes, tout ça sont homogènes au savoir-faire de Christine. Elles ont préparé les cadavres en bonne cuisinière, comme on part une viande en cuisine. Pourquoi elles ont choisi les yeux, les nucléations pour tuer leur patronne, ça n'est pas un détail. C'est extrêmement important, ça obéit à la logique profonde de leur folie, c'est que l'observation est un regard. Et les yeux, ça porte le regard. Et pour Christine, l'œil et le regard, c'est la même chose. Donc le regard est persécuteur, et le soir où il y a cette observation, pour se protéger du regard, il faut enlever les yeux. En voilà du propre. Et la formule qui signe le dégrisement et qu'elles échangent vidées de toute émotion. La fureur est retombée, le délire chute. Ça me permet peut-être de faire une parenthèse et de dire que lors de l'examen par les experts, aux alentours du procès, c'est une petite chose qui a pu jouer ça. C'est-à-dire que quand les experts ont rencontré les filles, elles ne devaient plus être délirantes. le passage à l'acte avait en quelque sorte résolu le délire, résolu la persécution, et elles se présentaient comme des filles effarées, perdues, mais pas pathologiquement actives, en quelque sorte. Ça pourrait être un des éléments d'excuses centraux de l'appréciation des experts. Mais ça ne suffit pas. Voilà, donc pour revenir au passage à l'acte, voilà, le soir même, et une fois qu'elles se sont lavées, que la fureur est retombée, elles s'enferment dans leur chambre et elles attendent la police.
L'hypothèse qu'on fait justement quand on fait une hypothèse de pathologie psychiatrique, notamment de psychose, c'est que très souvent le psychotique, pour tenir la route, il se soutient de l'identification. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour pouvoir tenir la route, c'est-à-dire être, voilà, ne pas être à côté, quoi, tenir dans la vie, il s'installe dans une forme de personnage. Et là, on fait l'hypothèse, on le voit bien, c'est que quand même les sœurs Papin, c'était des bonnes. Des bonnes, quoi. Enfin, dire des servantes irréprochables. Voilà. Et que c'est ça qui les tenait. C'est sur ce signifiant-là, pour reprendre des termes plus psychanalytiques et lacaniens, c'est ce signifiant-là qui les tiennent. Sauf le soir où il se passe ça, leur identité est mise en échec, on va dire. Hein. C'est-à-dire, là, c'est plus les bonnes irréprochables, parce que le travail n'était pas fait. Et là, il y a un effondrement.
Oui, et déjà, au préalable, il devait y avoir une pression du fait que le fer était tombé en panne et que donc elle ne pouvait pas matériellement finir le travail.
Voilà. Et là, effectivement, il y a du côté de quelque chose, d'une identité qui s'effondre. Et un psychotique, quand l'identité, enfin, cette espèce d'imaginaire dans lequel elles sont s'effondre, eh bien, ça peut effectivement, à un moment donné, avec une série de circonstances, conduire à ce qu'on appelle ça une déroute, quoi. Et donc, un effondrement, et ça peut être effectivement un passage à l'acte. Donc ça, c'est une hypothèse, effectivement, qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans des passages à l'acte de meurtriers qu'on rencontre en prison, si on essaie de, pas d'excuser, mais de comprendre un petit peu la logique du passage à l'acte.
Quand on est face à un certain nombre d'actes, d'actes meurtriers, d'actes horribles, d'actes dont on ne comprend pas le sens, la pensée a le choix. Soit elle rabat ça sur le fait de dire « ça n'est pas humain, ce sont des monstres » et ça rejette toute explication, soit il y a une autre orientation qui consiste à rechercher les éléments qui entourent l'acte criminel et donc d'amener quelques éléments, non pas totalement de compréhension, mais en tout cas de rigueur pour construire les coordonnées.
Dans vos écrits, vous parlez de coordonnées du passage à l'acte, c'est bien ça ?
Voilà, c'est-à-dire que l'ensemble des travaux nous permettent de penser et d'affirmer, de soutenir en le développant, qu'il y a eu le soir du meurtre ce qu'on appelle un passage à l'acte, ce qui est un élément aussi important de le dire comme ça, le passage à l'acte, parce que ça va à l'encontre de la préméditation. Les deux sœurs n'ont pas calculé de tuer leur patronne, mais le soir du meurtre, elles ont été hors de toute pensée. Elles ont été poussées hors d'elles-mêmes. Elles ont été dans un passage à l'acte, c'est-à-dire sans pensée. La philosophie traditionnelle cartésienne pense que la pensée prépare l'acte, qu'il y a une continuité entre l'acte et la pensée. Le passage à l'acte va contre cette idée et indique qu'il peut y avoir une rupture entre la pensée et l'acte. Et la découverte de l'inconscient, la rationalité freudienne va dans ce sens-là. Il y a des actes qu'on ne pense pas.
Procès verbal 1748-3 de constatation sur les lieux du crime. Le premier cadavre est celui de Mademoiselle Lancelin Geneviève. Il repose sur la face et on ne peut voir la figure. Le manteau est relevé à mi-hauteur du dos. La jupe est complètement relevée et la chemise à moitié. Le corset, dont les lacets ont été brisés, est tombé sur les cuisses. Le pantalon est baissé. On voit de profondes blessures sur les grands fessiers et les mollets ont été tailladés profondément 5 fois au point que de la chair a été détachée. Par la suite, on verra une blessure au côté gauche du crâne, une à la bouche qui a enlevé les dents et d'autres au menton. Le second cadavre, celui de Madame Lancelin, née Ringard Léonie, repose sur le dos. Les jupes sont à demi relevées et le pantalon est tombé sur les jambes. Les yeux ont disparu, la bouche n'existe plus. Les dents ont été projetées ça et là. On retrouve un œil détaché sur la première marche de l'escalier allant au rez-de-chaussée, soit à 2,25 m du cadavre. Et le second sera retrouvé plus tard sous le corps quand celui-ci sera enlevé. On trouve un peu partout des fragments d'os et de dents.
Tu dis que madame comptait les sucres ?
Elle comptait les sucres ? Elle a dit 18 sucres.
Mais pourquoi ? Elle croit qu'on la vole ? C'est pas possible.
C'est pas possible ? Elle croit qu'on la vole ? Elle croit qu'on la vole ? C'est pas possible. Pourquoi elle comptait les sucres ?
Elle croit qu'on la vole ?
Elle croit qu'on la vole ? Elle a marqué 18 sucres.
Tu dis qu'elle a marqué 18 sucres ?
Elle a marqué 18 sucres dans un calepin ?
Dans un calepin ? Tu l'as vu marquer 18 sucres dans un calepin ?
Bah vu, entendu. J'ai entendu madame qui disait à mademoiselle 18 sucres notes et elle l'a marqué.
Et mademoiselle était là ?
J'étais derrière la porte, j'ai entendu.
T'es sûre qu'elles t'ont pas vu ?
J'étais derrière la porte, elles m'ont pas vu.
Elles ont compté autre chose ?
Les liqueurs, je crois. Elle a dit « Les liqueurs, ça va, note ?»
On n'a jamais volé. On n'a jamais pris de sucre.
On n'a jamais pris de sucre, on n'a jamais volé.
Il en manquait des sucres ou pas, alors ?
Elles ont rien dit. Au début, elles croyaient qu'il en manquait, et puis après, madame s'est rappelé le thé avec les Duchesne.
Le statut de la bonne varie en fonction de leurs origines, à savoir si elles viennent des villes ou des campagnes pour aller vers la grande ville, vers Paris, ou alors si elles se placent elles-mêmes. Ça aussi, c'est important de savoir si elles se placent elles-mêmes ou si elles sont placées par les parents.
Sophie Mamouni.
Et c'était le cas notamment de la maman des sœurs Papin, Clémence Beret, qui a placé ses filles afin de pouvoir récupérer, tout au moins jusqu'à l'âge de 21 ans, les gages. Si vous voulez, c'est une classe sociale donc qui arrive de la campagne en général, qui va vers des patrons qui sont de l'aristocratie ou de la petite bourgeoisie. Elles sont corvéables à merci, hein. Elles ont les corvées du nettoyage, de la cuisine. C'est la maîtresse de maison qui dispense ces corvées. En l'occurrence, c'était Madame Lancelin qui donnait les ordres à Christine une fois par jour dans la journée. Et ensuite, c'était terminé. On parlait de silence. Et justement, après, il n'y a n'avaient plus aucun contact, tout au moins par la parole. Elles se croisaient, mais disons qu'elles étaient environnées de silence. La maîtresse de maison, elle avait une place presque virginale. Hein. C'était la représentation mondaine, la morale. D'ailleurs, quand on parle de représentation virginale, Madame Lancelin mettait des gants blancs pour vérifier si les meubles avaient été bien époussetés. Ça allait jusque-là. Les bonnes elles-mêmes ne pouvaient pas se révolter. Hein. Il n'y avait pas à l'époque de syndicat, et puis elles n'avaient absolument rien à dire. Alors la mini-révolte, c'était par exemple le refus de répondre à la sonnette, ou alors les petits profits sur des achats, quand c'était possible. Hein. Parce que là aussi, les patrons surveillaient, par exemple, le nombre de morceaux de sucre, savoir si la bouteille d'alcool, on pouvait faire un trait, hein, pour voir si elle ne descendait pas à leur insu. Toutes ces petites choses, ces brimades, hein, même ça allait plus loin, alors c'était pas le cas des sœurs Papin, mais on changeait les prénoms d'origine. Hein. Souvent, les bonnes avaient un prénom donc, de naissance, et quand elles rentraient dans les maisons, on leur attribuait un autre prénom. Donc leur identité pouvait être niée, le corps aussi, à la limite, était nié, puisqu'elles avaient un uniforme. Elles ne devaient pas donc apparaître avec leurs atours personnels. Lorsqu'elles étaient malades, ben écoutez, on prenait pas le temps de se soigner, il fallait travailler. Hein. Le corps était soumis, imposé à des horaires drastiques. touristique, très peu de jours de repos, des logements donc situés en général sous les combles, évidemment sans chauffage, hein, il va sans dire. Quand il fallait descendre le matin pour aller allumer le feu, ben on descendait dans le froid et on allait réchauffer la maison des patrons, mais chez soi pour dormir, effectivement. C'était vraiment le strict minimum, un lit avec à l'étage des toilettes et un petit robinet d'eau froide, et c'était tout, voilà. C'est vrai que leurs conditions étaient extrêmement difficiles, mais sans pouvoir, évidemment, enfin, si elles n'étaient pas contentes, elles partaient.
Vous rappelez que les sœurs Papin avaient pour congé uniquement une partie des après-midi le dimanche.
Le dimanche, voilà, puisque les Lancelin recevaient la famille le dimanche, donc il fallait assurer le repas de midi, et c'était entre 15h et 18h, parce qu'après il fallait s'occuper à nouveau du repas du soir, où elles avaient un laps de temps à elles, où elles pouvaient sortir, ce qu'elles ont fait au début, et puis ensuite, de plus en plus, elles se sont refermées sur elles-mêmes, et elles sont restées dans leur chambre à faire des travaux de couture ou autre, à se reposer, mais... Le temps qui leur était imparti pour elles, le temps libre était inexistant. Hein. C'était corvéable à merci à l'époque. Et ça le reste parfois d'ailleurs encore hein, dans certaines maisons et dans certains pays.
C'est peut-être cette condition de sous-homme, de sous-femme, qui aurait amené après les événements une certaine presse, je pense à Détective ou à l'Humanité, à voir dans ce crime une espèce de vengeance sociale.
Voilà, ils ont un petit réparti de cette affaire pour appuyer et mettre l'accent là-dessus. Mais honnêtement, d'après moi, ce que j'ai pu voir des dossiers et de l'histoire de Christine et Léa Papin, je ne pense pas qu'elles étaient à même d'aller jusque-là dans le raisonnement, hein, de penser à révolte sociale, d'autant que lorsqu'on les a interrogées, hein, elles n'ont jamais émis aucun reproche à leur patron.
Nous sommes en 1933, c'est pas n'importe quelle année, 1933. Hitler a été appelé à la chancellerie du Reich le 30 janvier 1933. Donc il y a du fait du temps, de la temporalité, deux événements qui sont dans la publication des journaux mis côte à côte. Est-ce que ça peut avoir influencé le contexte de déchaînement de violence? C'est une question qu'on peut se poser, en quoi l'information collective a une influence sur la subjectivité personnelle. Pour certaines occasions, je serais portée à dire oui. Pour le cas des sœurs Papin, je serais portée à dire non. Elles étaient beaucoup trop coupées, beaucoup trop isolées, beaucoup trop repliées, pour même avoir entendu parler de cet événement de politique extérieure, je ne crois pas. Dans une autre affaire, qui est l'affaire Landru, pour laquelle une collègue a écrit un livre tout à fait remarquable, Francesca Biagice, qui a écrit un livre sur le cas Landru, une biographie éclairée par la psychanalyse, on peut dire que la Première Guerre mondiale a été l'occasion et le prétexte d'un déchaînement et d'une autorisation au crime. Les coordonnées ne sont pas les mêmes.
J'ai retrouvé ce qu'avait dit Simone de Beauvoir. Nous avions donc eu tort de voir, dans leur excès, le sauvage déchaînement d'une liberté. Elles avaient frappé plus ou moins à l'aveuglette. À travers des terreurs confuses, nous répugnions à le croire et nous continuâmes sourdement à les admirer. Cela ne nous empêcha pas de nous indigner quand les psychiatres de service les déclarèrent saines d'esprit. Ça vient bien dire qu'il y a eu, voilà, c'est quelque chose qui a été récupéré, puis après à nouveau une relecture, voilà, je trouvais que ça venait bien.
Parce que ça vient rentrer en résonance avec nos propres fantasmes, des choses qu'on garde bien dans un coin au chaud, mais quand on a devant les yeux un noir comme ça, ça vient faire ressurgir sur des modalités qui peuvent être l'horreur ou la compassion, ou bien au contraire le lynchage, etc. Mais ça nous cause à nous, hein, c'est-à-dire l'horreur,
elle habite malheureusement tous les humains. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde est des monstres et tout le monde va arriver à faire des choses comme ça. Mais quand ça arrive, effectivement, ça vient nous renvoyer à ce qu'on ne veut pas voir aussi, de notre propre horreur. C'est pour ça qu'il y a toutes ces manifestations autour de chaque fois qu'il y a un fait divers comme ça, monstrueux. Ça, on voit bien comment ça. Et donc, ça fait écrire, hein, ça fait sortir les plumes.
Je suis allée au Mans passer quelques jours pour travailler sur les dossiers d'archives et je me suis aussi imprégnée, disons, de l'atmosphère de cette ville. Et j'ai pu aussi voir la maison des Lancelins qui existe toujours, bien sûr. C'était à l'époque, c'était au mois d'octobre, fin octobre, début novembre. Et donc on peut vraiment bien imaginer cette ville qui est quand même une très belle ville, certes, mais qui a un aspect un peu froid par moment dans le vieux Mans, qui peut avoir, on referme, je me souviens très bien de ces volets vite fermés, là, le soir, dès que la pénombre commence à arriver. J'extrapole, bien sûr, imaginez, une petite ville de province, surtout avant la guerre, où il était peut-être pas très facile d'être bonne, à cette époque-là.
Une ambiance austère.
Oui, très austère. C'est une ville avec certains, il y a eu bien sûr des notables, et on devait vite être repéré, épié dans les rues ou, enfin, comme toutes les petites villes de province.
Est-ce que il n'y aurait pas eu un paramètre qui tiendrait à l'état de la psychiatrie à l'époque?
Ben, le fait que les trois experts ont rencontré les sœurs Papin, qu'il y ait eu des observations, on va dire, physiques, physiologiques, qui leur ont permis de poser un diagnostic. Ils ne sont pas partis de l'acte ni des faits tenant à leur passé ou à leur enfance ou quoi, avec cette analyse-là. Eux, ils sont partis de faits physiques et physiologiques. Donc oui, on peut se dire qu'aujourd'hui, sous une autre forme, ça peut encore arriver, mais qu'on va être quand même dans une approche plus clinique, était peut-être celle justement du docteur Logre.
Et comment on peut expliquer cela? Il y avait quand même trois experts, le docteur Pierre Schutzenberger, le docteur Jacques Baruc et le docteur Victor Truel, à l'époque des experts reconnus pour leurs compétences, d'un commun accord conclut vraiment que ces deux personnes sont responsables de leur acte.
Tous trois, ils ont été chercher le crime dans les organes, en fait, ou dans la constitution physique des deux personnes.
Uniquement.
Plus ou moins, quand même.
Oui, c'était... Après, c'est vrai que c'était l'époque où, un an avant, Lacan avait écrit sa thèse sur la paranoïa. Donc on voit bien qu'il y avait une poussée d'une vision plus structuraliste de la pathologie, on va dire, avec la mise en évidence, par exemple, pour la psychose, que justement, qu'il n'y ait pas que des de mettre en évidence la psychose sans avoir forcément des manifestations, comme on appelle les phénomènes élémentaires ou les délires, etc. Mais peut-être qu'on en était au début. Et après, je crois qu'aussi, il y a un contexte peut-être historique. Peut-être aussi, je crois qu'il ne faut peut-être pas regarder que du côté de la psychiatrie, parce que quand bien même on se dirait, ouais, d'accord, mais ça n'est pas de spécialiste, ça. C'est pas... Sauf que quand même, il ne faut pas oublier que ça, de tout temps, la psychiatrie, elle a été imprégnée du moment du contexte dans lequel elle était. Encore aujourd'hui. Hein.
Tout à fait, oui.
Il y a des experts aujourd'hui qui ont du mal à irresponsabiliser parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des foudres qui vont leur tomber dessus, l'opinion publique, etc. Et qu'en se disant, mais peut-être ils seront pas plus mal en prison parce qu'en prison, il y a des soins, etc. Donc tout ça pour dire que l'idée d'une idée pure de la psychiatrie ou d'un expert qui jugerait en toute objectivité, en tout cas sans impartialité, c'est pas du tout concevable. Je crois que c'est toujours dans un moment donné, dans un contexte donné, dans une histoire donnée, et que ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier aussi. Et vrai à l'époque des sœurs Papin comme vrai aujourd'hui. Donc il y a à la fois l'état de l'avancée de la psychiatrie, mais aussi un contexte certainement historique.
Avec beaucoup d'inquiétudes au niveau politique, c'est vrai.
Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a la montée quand même d'Hitler, il y a Ce que j'avais lu là, par rapport à ce procès, c'est qu'il y avait quand même un petit scandale. Enfin, ça avait remué la salle quand il avait été question de ce qu'elles avaient fait, notamment ces découpages, enfin, cette espèce de perversion sexuelle, enlevant les culottes, mettant à jour les sexes, taille à dents, etc. C'était, pour la morale bourgeoise de cette petite ville-là de province, ça a été quand même... peut-être aussi un élément, voilà, enfin, on ne voit pas forcément la folie, là, on voit peut-être la perversion, et ça, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Et donc, peut-être que ça a joué aussi, enfin, ça, c'est des hypothèses. Hein.
Enfin, ce qu'on voit quand même, c'est que raison est donnée à ce type d'analyse-là, qui oui. prend quand même le pas sur l'analyse du docteur Logre, qui est beaucoup plus clinique et qui se base sur des faits de vie et sur l'acte. En tout cas, c'est ces analyses-là qu'on va prendre en compte. Parce qu'en effet, elles soutiennent aussi, finalement, l'opinion publique, quoi.
Rapport médico-légal. Ordonné en date du 2 février 1933 par Monsieur le juge d'instruction du Mans. Les deux victimes ont été trouvées étendues sur le palier du premier étage, l'une et l'autre encore vêtues de leur manteau. Madame Lancelin était sur le dos, tête tournée à droite. Mademoiselle Lancelin était face contre terre. L'une et l'autre avaient les jupes relevées et le pantalon abaissé. Tout indique qu'elles ont été attaquées au moment où elles venaient de rentrer, avant qu'elles aient eu le temps de se déshabiller. En déshabillant le corps de Madame Lancelin, on trouve dans le tour de cou un brillant d'oreille et deux globes oculaires. Ceci aurait été trouvé sous le corps et placé dans le tour de cou au moment du transport. Sur le bas de la chemise et à la face interne des cuisses, traces de sang vraisemblablement apportées par des mains sanglantes. Les gants sont encore aux mains. La montre-bracelet est arrêtée à 7h22. L'examen du corps révèle de nombreuses traces de violence. Celles-ci prédominent à la tête, face et crâne. Les blessures de la tête sont considérables, difficiles à décrire à cause de leur multiplicité. Dans la région occipitale, le cuir chevelu a été scalpé sur une zone de 9 cm sur 7 cm. Il est coupé en forme de valve ouverte en haut et se rabattant en arrière. Sous ce lambeau, l'os du crâne est mis à nu. Et on y trouve incrustés quelques éclats d'étain. Au front, région médiane, ecchymose des dimensions d'une pièce de 5 francs d'avant-guerre. Enfin, la face et toutes les régions frontales gauche et temporales gauche sont horriblement mutilées. Sur une vaste zone de 11 cm sur 14 cm, et qui s'étend du nez à l'oreille et de la bouche en haut de la tempe, c'est un véritable écrasement. Dans lequel on reconnaît lambeaux de peau, fragments osseux, dents arrachées, bouillies de matière cérébrale et de sang. La lèvre supérieure est déchiquetée. On ne reconnaît plus ni joue ni orbite. L'oreille est sectionnée à son insertion. Au menton, plaie linéaire verticale de 4 cm, allant jusqu'à l'os. Dans le plan osseux, l'os malaire est broyé, ainsi que le maxillaire supérieur. Le maxillaire inférieur est fracturé. L'os frontal est effondré, réduit en fragments. Enfin, toute l'extrémité antérieure de l'hémisphère gauche du cerveau est réduite en bouillie. Aucune trace de violence sur les membres inférieurs. Les bras et les avant-bras ne présentent eux aussi aucune trace. Les seules blessures siègent aux deux mains, encore gantées. À la main droite, nombreuses ecchymoses du dos de la main. Petite plaie de l'espace interdigital entre pouce et index. Plaie également au dos de la première phalange de l'index et de la deuxième phalange du médius. Elles sont superficielles et semblent avoir été faites par un instrument tranchant. La deuxième phalange du médius est fracturée. La main gauche ne présente que de petites ecchymoses. Au niveau de l'articulation métacarpophalangienne de l'annulaire et du médius, face dorsale, et sur le dos de la première phalange de l'index.
Je pense que ce qui les a desservies aussi, c'est que c'était deux jeunes femmes qui n'ont pas fait de vagues jusque-là. Même si après, en allant chercher dans les détails, on voit des petites choses qui peuvent faire signe, mais d'une manière générale, c'était des bonnes servantes qui travaillaient avec zèle, qui, en dehors du travail, ne se montraient pas, on va dire, déviantes ou quoi que ce soit. Enfin, personne n'avait rien à leur reprocher. Et donc, du coup, c'est comme un éclair dans un ciel clair. Alors effectivement, on peut attraper toujours les choses dans un sens comme dans un autre, de dire, ben oui, comme si elles ont été jusqu'alors irréprochables et si rien n'a débordé, voilà, c'est des filles normales, quoi. Après, on peut aussi prendre les choses à contre-pied, en disant, c'est pas possible de faire un truc comme ça, si horrible, et ne pas avoir un grain quelque part, quoi. Hein. Donc tout peut être attrapé dans un sens comme dans un autre. Il semblerait quand même que ce sur quoi les choses se sont polarisées, c'est justement leur normalité apparente, quoi, on va dire. Hein. Alors après, justement, là, j'avais relevé un petit élément sur l'irascibilité de Christine. Mais ça, c'est pareil. Une irascibilité de quelqu'un, ça peut aussi dire ben, c'est de la normalité d'être... Enfin, voilà, c'est un tempérament, quoi. Mais un tempérament n'atteste pas forcément d'une pathologie. Donc, tout comme ça, hein. C'est-à-dire, est-ce que ça, ça fait signe, mais ça fait signe pour une pathologie ou est-ce que ça fait signe pour une normalité?
Ça fait signe au moment d'une relecture.
Oui, mais... c'est ça. Ça fait signe dans l'après-coup, parce voilà. qu'il s'est passé ça.
Après l'acte.
Oui. Au voilà. moment de la relecture.
Mais une irascibilité, ça peut être un trait de force de caractère, comme effectivement une rigidité défensive qui fait plus penser à de la pathologie.
Je pense que les Lancelets avaient une grande confiance dans ces bonnes, puisque lorsqu'ils partaient en vacances dans leur résidence secondaire, ils leur laissaient en charge la maison du Mans. Elles étaient seules dans cette maison. Donc, il y avait quand même un certain rapport de confiance. On a aussi interrogé, bien sûr, les personnes qui ont employé avant Christine et Léa. Toutes les personnes s'accordaient à dire que elles faisaient bien leur travail. Christine avait peut-être parfois s'emporté plus facilement que Léa, qui avait un caractère beaucoup plus docile, plus affable. Mais elles ont toujours partout donné satisfaction. C'était vraiment, on pourrait dire, des perles. Hein. Je voulais aussi ajouter quelque chose, c'est qu'en fait, on a souvent l'image des bonnes, leur vécu, on l'a à travers le récit des patrons, mais pas vraiment à travers leur témoignage à elles. Elles n'ont pas écrit de journaux, elles n'ont pas été interrogées à l'époque, donc c'est toujours, surtout donc au début du XXe siècle, ce qu'on sait des bonnes, on le tient du discours de leur patron.
J'ai aucun regret. Au mieux, je ne peux pas vous dire si j'en ai ou si j'en ai pas. Elles ont voulu nous frapper, je me suis vengée.
Mademoiselle Lancelin nous avait bousculé, ma sœur et moi.
J'aime mieux avoir eu la peau de nos patronnes qu'elle la nôtre. J'ai pas prémédité mon crime, je n'avais pas de haine envers elle. Mais je n'admets pas le geste qu'a eu ce soir-là Madame Lancelin à mon égard.
Madame Lancelin avait l'air de dire qu'on était bonne à rien.
J'attends d'être jugée. J'ai confiance. Ça dépend comment cela sera pris. Je serai punie. Jusqu'au cou, coupée. Ça m'est égal. J'ai tué, tant pis pour moi.
Je vous le répète, j'aime mieux avoir eu la peau de nos patronnes plutôt qu'elle la nôtre. Et je vous le répète encore, je n'ai aucun regret.
Le 30 septembre 1933, les sœurs Papin seront jugées responsables de leurs actes. Christine sera condamnée à la peine de mort. Les circonstances atténuantes seront accordées à Léa. Elle devra purger une peine de 10 ans de travaux forcés.
Madame a dit, je retiendrai 5 francs sur vos gages.
Madame préfère quand on commence par les draps.
On n'a rien fait de mal.
Elle veut plus nous parler, elle nous regarde bizarre, on n'a rien fait de mal.
C'est peut-être la tache l'autre jour sur mon tablier.
Elle t'a regardé bizarre.
Elle m'a regardé bizarre.
Elle veut nous empêcher.
Elle veut nous empêcher.
On n'a jamais volé. On n'a jamais pris de sucre.
On n'a jamais pris de sucre, on n'a jamais volé.
Vous avez encore détraqué le fer.
Le fer.
Vous avez encore détraqué. Mais vous êtes bon à rien.
Mais
Vous êtes bonne à rien. Encore.
Dans la chambre des bonnes, première partie. Avec la participation de Sophie Mamouni, Céline Bensoussan, Brigitte Beck et Marie-Christine Bruyère. Avec les voix d'Anne Bourgès, Léa Papin et Delphine Alvado, Christine Papin. Voix off, Anne Bourgès. Réalisation, Luis Mendes. Dans la chambre des bonnes, prochaine et dernière partie, le procès des sœurs Papin, l'histoire des sœurs Papin.